présente maintenant les deux intervenants qu'on a vraiment le grand plaisir d'accueillir ce soir pour débattre de ce sujet, penser l'Afrique, penser le monde. Alors Pierre Demarais, je ne sais pas s'il faut encore présenter Pierre Demarais. Pierre Demarais est donc professeur à l'ULB, ancien recteur entre 2000 et 2006, anthropologue et archéologue. Il a quantité d'autres titres, donc il est professeur honoraire à University College London. Il est docteur honoris causa de nombreuses autres universités que je ne nommerai pas. Ça fait plus de Lubumbashi, Lyon, Montréal, Tübingen. Ça fait 45 ans, plus de 45 ans que Pierre Demarais poursuit des recherches sur le terrain en Afrique centrale, essentiellement. Et outre l'archéologie et l'anthropologie, il a des tas d'autres centres d'intérêt comme la muséologie, la gestion culturelle. Et si nous avons tenu absolument à ce qu'il soit ici ce soir, c'est parce que Pierre est un acteur majeur du développement des études sur l'Afrique à l'ULB. Et je pense que nous sommes nombreux dans cette salle ce soir à savoir ce que nous lui devons et à savoir ce que notre compagnonnage avec l'Afrique lui doit. Donc merci Pierre d'être ici ce soir. Alors notre second intervenant est Hamzat Boukhari Yabara, qui est docteur de l'EHESS à Paris, qui est historien. Alors il est auteur d'un ouvrage que vous avez peut-être lu si vous vous intéressez à l'Afrique, parce qu'on en a énormément parlé, un ouvrage incontournable sur le panafricanisme qui s'appelle Africa Unite, comme le disait Bob Marley, publié aux éditions de La Découverte. Hamzat a aussi écrit des ouvrages sur le Nigeria, sur le Mali, sur Walter Rodney. Et sa présence ce soir, son invitation se justifie, je pense, d'une triple manière. Premièrement, Hamzat fait partie de la jeune génération d'intellectuels du continent africain qui contribue au renouvellement du regard porté sur l'Afrique. Deuxièmement, il est originaire à la fois du Bénin et de la Martinique. Et donc, il illustre parfaitement cette Afrique globale qui doit pouvoir être pensée de partout, à partir de partout, et qui a essaimé partout dans le monde. Et troisièmement, Hamzat est aussi là parce qu'il est également poète. Il n'est pas seulement chercheur, il n'est pas seulement scientifique, il est aussi artiste. Et comme ce soir, nous voulions que cette soirée se place à la confluence entre le discours artistique et le discours scientifique, pour voir dans quelle mesure les deux peuvent se fertiliser mutuellement pour enrichir notre manière de penser l'Afrique et de penser le monde. C'était important que Hamzat soit avec nous ce soir. Alors, avant de leur donner la parole, on va écouter la voix d'un des grands poètes de ce que l'on a appelé la négritude, et c'est la voix puissante d'Aimé Césaire.
Non, nous n'avons jamais été des Amazones du roi du Dahomey, ni prince du Ghana avec 800 chameaux, ni docteur à Pombouctou, Askia le Grand étant roi, ni architecte de Djéné, ni Mahadi, ni guerrier. Et nous ne sentons pas sous les selles la démangeaison de ceux qui jadis tinrent la lance. Et puisque j'ai juré de ne rien sceller de notre histoire, moi qui n'admire rien tant que le mouton broutant son ombre d'après-midi, je veux vous avouer aussi que nous fûmes de tout temps d'assez piètres laveurs de vaisselle. Des cireurs de chaussures sans envergure. Non, mettons les choses au mieux. D'assez consciencieux sorciers, et le seul indiscutable record que nous ayons battu est celui d'endurance à la chicotte. Et ce pays cria pendant des siècles que nous sommes des bêtes brutes, que les pulsations de l'humanité s'arrêtent aux portes de la négrerie, que nous sommes un fumier ambulant, hideusement promoteur de canne tendre et de coton soyeux. Et l'on nous marquait au fer rouge, et nous dormions dans nos excréments. Et l'on nous vendait sur les places, et l'aune de drap anglais, et la viande salée d'Irlande coûtait moins cher que nous. Et ce pays était calme, tranquille, disant que l'Esprit de Dieu était dans ses actes. Et voici, au bout de ce petit matin ma prière virile. Que je n'entende ni les rires ni les cris, les yeux fixés sur cette ville que je prophétise, belle. Donnez-moi la foi sauvage du sorcier. Donnez-moi la puissance de l'épée. Donnez à mon âme la tempe de l'épée. Je ne me dérobe point. Faites de ma tête une tête de proue. Mais faites de moi aussi un homme d'ensemencement. Faites de moi l'exécuteur de ces hautes œuvres. Alors voici le temps de se ceindre les reins comme un vaillant homme. Mais le faisant, mes cœurs, préservez-moi. Préservez-moi de toute haine. Et ne faites point de moi cet homme de haine pour qui je n'ai que haine, car pour me cantonner en cette unique race, vous savez mon amour tyrannique, vous savez que ce n'est point par haine des autres races que je m'exige, bécheur de cette unique race, que ce que je veux. C'est pour la faim universelle, c'est pour la soif universelle. Et voici soudain que force et vie m'assaillent comme un taureau, et l'onde de vie succombe la papille du morne. Et voilà toutes les veines et vénules qui s'affairent à mon sang neuf, et l'énorme poumon des cyclones qui respire, et le feu thésaurisé des volcans, et les gentils et les gigantesques poux sismiques qui bat maintenant la mesure d'un corps vivant à mon ferme embrasement. Et nous sommes debout maintenant, mon pays et moi, les cheveux dans le vent, ma main petite maintenant dans son poing énorme, et la force n'est pas en nous, mais au-dessus de nous, dans une voix qui vrille la nuit et l'audience comme la pénétrance d'une guêpe apocalyptique. Et cette voix prononce que l'Europe nous a pendant des siècles gavés de mensonges et gonflés de pestilence, car il n'est point vrai que l'œuvre de l'homme est finie, que nous n'avons rien à faire au monde, que nous parasitons le monde, qu'il suffit que nous nous mettions au pas du monde. Mais l'œuvre de l'homme vient seulement de commencer, et il reste à l'homme à conquérir toute interdiction immobilisée au coin de sa ferveur. Et aucune race ne possède le monopole de la beauté, de l'intelligence, de la force. Il est place pour tous au rendez-vous de la conquête. Aimé Césaire.
Voilà. Un magnifique texte extrait du cahier de retour au pays natal que Césaire a commencé à écrire en 1936 et dont il n'a cessé de réécrire et réécrire le texte. Alors, puisque Césaire nous a ramené un peu dans l'histoire, je proposerais de commencer la discussion par l'histoire et donc à m'adresser d'abord à Pierre Demarais pour lui demander de nous faire son histoire des études sur l'Afrique à l'ULB. D'où viennent-elles? Comment se sont-elles structurées ou pas du moment où elles ont commencé jusqu'à aujourd'hui?
Vaste programme et qui risque d'être très très long. En fait, l'étude de l'Afrique à l'ULB a commencé, pour autant personne ne l'a jamais explorée de façon systématique, mais très tôt, dès les débuts de l'État indépendant du Congo, pour le meilleur ou pour le pire, Édouard Dupont, 1877, géologue, mais à titre personnel, donc pas directement associé à l'État indépendant du Congo, j'insiste, va commencer à explorer et à dresser la géologie. Professeur à l'ULB, va faire la géologie du Bas-Congo, commencer les premières recherches archéologiques. Premier personnage. Deuxième personnage, et je ne vais pas vous les égrener tous, parce qu'il y en a, à premier décompte, approximatif, près d'une centaine. Le deuxième personnage que je trouve assez marquant de ses débuts, c'est Félicien Cattier, que vous connaissez peut-être parce qu'il a fondé, il était un des fondateurs de la Fondation universitaire. C'était un juriste qui est assez vite devenu banquier, mais qui très vite s'est dressé dans le contexte, on parle de, il était doyen de la faculté de droit en 1911, donc on parle d'un contexte qui est vraiment le tout début de l'époque coloniale, la fin de l'État indépendant du Congo et le début de l'époque coloniale. Il se dresse déjà contre un certain nombre d'excès de l'État indépendant du Congo. Il va faire partie des responsables de l'État indépendant. Il va être un des rédacteurs de la charte coloniale qui est quand même la base de l'œuvre coloniale. Il va dénoncer aussi, oui, j'oubliais, en 1897, la fameuse exposition de Tervure. Il va dénoncer le village africain qui a Tervure en termes véhéments, l'honneur de l'ULB est sauf à ce moment-là. Il va avoir un rôle extrêmement important dans l'évolution de la colonie. Alors après ça, bien, il y a un autre personnage aussi qu'on connaît quand même bien à l'ULB, qui est Victor Brien, qui est lui aussi géologue, mais qui devient très vite un géologue très très appliqué, qui va faire fortune, et c'est grâce à lui que l'ULB peut se targuer d'avoir un petit château du côté de Lembeke. Donc on a là trois personnages. La géologie au départ est assez importante, évidemment, c'est vieux refrain à travers toute l'histoire de l'Afrique, l'exploitation des ressources naturelles. Alors 1931, autre date importante, création d'un fonds Cassel, aussi un mécène lié au Congo qui met de l'argent à disposition des enseignants et des chercheurs de l'ULB pour aller travailler sur le terrain. 1938, alors date très très importante, c'est la création du CEMUBAC, le centre médical de l'Université de Bruxelles, qui va travailler du point de vue médical, mais aussi du point de vue scientifique, d'abord avec des programmes très intensifs de lutte contre la tuberculose, et puis du point de vue médical, ce sera aussi la lutte contre le goitre, contre les carences, contre plus tard le sida. Mais le CEMUBAC, c'est aussi des recherches sur l'histoire, sur la géographie, avec un des grands personnages qui commençait à l'ULB la géographie, puis deviendra professeur au Collège de France, Pierre Gouroux, Henri Nicolaï plus tard. Le CEMUBAC, c'est aussi l'histoire des ouélés, c'est aussi l'histoire sociale, l'histoire du travail, le début de l'intérêt pour le syndicalisme. Donc il y a toute une série de recherches qui vont donner à l'ULB au fil du temps une expertise qui fera que lorsque l'on va commencer à discuter de l'indépendance, eh bien, un certain nombre d'enseignants, de chercheurs de l'ULB seront à côté des Congolais pour négocier la table ronde qui verra l'aboutissement de l'indépendance. Donc, de ce point de vue-là, un travail et un engagement de l'université. Alors après ça, on peut multiplier dans tous les domaines de la botanique du vigneau, de la zoologie Paul, de l'ethnographie Luc de Heuge, Smets et d'autres. Enfin, il y en a je veux dire, une soixantaine, je vais vous en faire grâce, mais c'est un ensemble extrêmement, extrêmement important. Alors l'ULB est aussi, et pas seulement au Congo, est aussi très proche de toutes les luttes pour l'indépendance. Certains qui deviendront doyens de faculté sont des porteurs de valises pour le FNL en Algérie. C'est un des professeurs de l'ULB, Jean Salmon, qui va être le conseiller du FNL pour les accords d'Évian aboutissant à l'indépendance de l'Algérie. Donc un combat dans le domaine des indépendances qui est marquant. J'oubliais aussi quelque chose d'important, c'est la contribution de l'ULB à la fondation de l'Université officielle du Congo en 1953, avec les deux premiers recteurs de cette université, conjointement avec l'Université de Liège, les deux recteurs qui sont des recteurs de l'ULB, des professeurs de l'ULB, notamment Jean Yernaud, qui aura un rôle très important dans la lutte contre le racisme en conjonction avec l'UNESCO. Et pour ne pas être trop long, un autre aspect aussi, c'est l'engagement de l'ULB pour la lutte contre l'apartheid. Il faut savoir que c'était ici qu'étaient basés les relais de l'ANC et de l'ensemble des pays de la lutte de la ligne de front contre l'apartheid. Et d'ailleurs, nous avons été la première université, quasiment, il y a une université sud-africaine qui l'avait fait, à décerner un doctorat honoris causa à Nelson Mandela quand il était encore en prison en 1984. Donc un engagement de longue haleine par rapport à nos valeurs, par rapport à nos idéaux, avec évidemment toute une série de recherches sur le terrain, bien sûr d'abord au Congo, mais aussi au Rwanda, au Burundi, et puis dans un certain nombre d'autres pays, mais les énumérer serait, je pense, beaucoup trop long à ce stade-ci.
Merci beaucoup. Alors je me tourne vers Hamzat, historien spécialiste du panafricanisme. Donc le panafricanisme s'est déployé dans les années 50 comme un mouvement d'émancipation politique, certes, mais aussi un mouvement d'émancipation culturelle. Et donc est-ce que les premiers panafricanistes ont émis des critiques par rapport à ce qui constituait les piliers de la connaissance de l'Afrique développée dans les universités européennes?
Oui, alors... L'intérêt du panafricanisme, c'est que c'est un courant qui est né à l'extérieur du continent africain et qui fait paradoxalement partie de ces nombreux courants qui ont défini l'Afrique de l'extérieur. L'Afrique a très souvent été définie, écrite de l'extérieur, et là, ça a été le cas, mais à travers sa diaspora. Et du coup, constamment s'est posée la question de qu'est-ce que l'Afrique, de comment la définir, comment l'inventer ou la réinventer. Et cet élément, il est important puisque l'Afrique est le point de départ de l'histoire de l'humanité. Et par conséquent, comment peut-on penser le point de départ de l'histoire de l'humanité à l'extérieur de ce point de départ-là? Et donc ça, ça a été une interrogation qui a été développée tout au long du 19e siècle par un certain nombre d'intellectuels. L'un des plus importants, je pense, à connaître, c'est Anténor Firmin, qui en 1885, donc la même année que la conférence de Berlin qui partage l'Afrique en zone d'influence, va écrire son essai sur l'égalité des races humaines, avec en sous-titre « Anthropologie positive ». Donc la question de l'anthropologie, elle est fondamentale, je pense, dans les premières réflexions qui ont été faites par les intellectuels panafricanistes pour redéfinir l'Afrique et pour redéfinir également et revaloriser l'identité des peuples africains. Donc, dès cette époque-là, il fait un travail assez intéressant sur l'Égypte, sur la Nubie et sur d'autres civilisations antécoloniales. Et il prophétise notamment l'élection d'un noir à la Maison Blanche un jour, dès lors que noir et blanc se retrouvent dans les mêmes conditions d'accès, notamment au savoir. Les deux autres auteurs, je pense, qui sont assez importants, l'un a été cité, donc c'est Aimé Césaire, bien évidemment, qui, à travers le courant de la négritude, va aussi faire entrer la question de l'art, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de réflexions et de remises en cause du regard qu'on avait sur l'art africain dans ces années-là. Et je pense que c'est un élément qui est très important parce qu'à travers l'art, on peut écrire l'histoire et ça renvoie à toute l'actualité de la restitution des œuvres d'art qui sont dans les musées occidentaux aujourd'hui. Le troisième personnage, c'est William Edgar Du Bois, donc W.E.B. Du Bois, un noir américain, très célèbre, connu comme étant la plus grande figure intellectuelle du panafricanisme à cette époque-là, qui va écrire un ouvrage intitulé « The World and Africa » pendant l'entre-deux-guerres, où il montre justement le rôle stratégique que joue l'Afrique en termes d'intérêt géopolitique, notamment par rapport à la Première Guerre mondiale et par rapport également aux impérialismes qui se développent à cette époque-là. Et ce qui est intéressant avec Du Bois, c'est qu'il va terminer sa vie au Ghana et que l'un de ses derniers grands projets, qui n'a pas abouti, mais que l'on tente de reprendre aujourd'hui, c'est le projet de l'Encyclopédia Africana, c'est-à-dire comment faire la somme de tous les savoirs des civilisations africaines sur le continent et à l'extérieur du continent. Enfin, le quatrième personnage, qui je pense est quand même très important, c'est bien évidemment Cheranta Diop, puisque à travers donc, ses travaux « Nation Nègre et Culture, l'unité culturelle de l'Afrique » et l'Afrique noire précoloniale, il a justement, je pense, introduit pour la première fois une critique non eurocentrique de l'eurocentrisme, avec beaucoup de force et beaucoup également de militantisme, qui fait qu'il a, je pense, construit un véritable paradigme qui fait qu'aujourd'hui, la question des études africaines, elle est extrêmement sensible et elle est globale, puisque Diop était à la fois un littéraire, comme on dit, mais aussi un scientifique. Donc je pense que ces quatre auteurs sont très importants pour justement repenser cette fameuse bibliothèque coloniale, pour repenser aussi cette question donc, de l'anthropologie, donc Cheranta Diop, civilisation ou barbarie, anthropologie sans complaisance, et donc toujours cette idée de l'audace intellectuelle que l'on retrouve justement dans la contestation de la manière dont l'Afrique a été pensée de l'extérieur. Il faut bien comprendre que ce travail, c'est aussi une bataille militante et que les milieux étudiants ont justement été nourris tout au long de ce XXe siècle de ces enjeux-là. Donc je pense que c'est très important que dans les universités aujourd'hui, si bien en Europe que sur le continent africain ou aux États-Unis ou dans la Caraïbe, il y ait justement des réseaux qui se construisent et qui soient, je dirais, en mesure de comprendre les mutations de l'histoire de l'Afrique et également d'entendre les voix qui viennent de l'Afrique.
Pierre Demaret, souhaitez réagir?
Non, je crois que c'est un vrai défi. Le panafricanisme et le décloisonnement, parce que je pense que ce qui est le paradoxe, c'est que l'Afrique s'est retrouvée morcelée, éclatée par le fait des puissances coloniales. Et la conférence de Berlin est évidemment emblématique. Et aussi, c'est un des dadas de Cheikh Anta Diop que j'ai eu l'occasion de connaître, c'est évidemment de réapproprier des grandes civilisations comme la civilisation égyptienne. L'Égypte et les égyptologues continuent à être fascinés par le monde classique et par le monde babylonien ou autre, mais il y a un mouvement maintenant, mais c'est seulement maintenant, bien longtemps après la disparition de Cheikh Anta Diop, que par exemple aux États-Unis, on voit très clairement qu'on réintègre véritablement les civilisations égyptiennes dans le grand ensemble africain, ce qui est quelque part quand même une révolution paradigmatique aussi.
Donc on a mentionné les termes de bibliothèque coloniale, et c'est vrai que les relations ont été complexes, difficiles, parfois douloureuses, entre les chercheurs du Nord et du Sud, pour le dire de manière un peu caricaturale, des relations qui ont aussi été marquées par le passé colonial et des relations d'intérêt dans une situation de domination. Et donc voilà, on voudrait vous proposer un texte d'un auteur qui a beaucoup réfléchi à cette question des rapports entre l'Europe et l'Afrique. Et c'est l'homme de lettres congolais Sonny Laboutansi.
1, 2, 3, 4. Penser, vendre et acheter. Penser, vendre et acheter ont bousillé les géographies. Dans la situation actuelle, l'Afrique pense peu, elle vend mal et elle achète au pire. Et de cette manière, l'Afrique se rend complètement inégalable dans la science de se jeter la poudre aux yeux. Et se jeter la poudre aux yeux, aucun de nos États ne démérite dans cette discipline. Les 30 dernières années de notre histoire sont insoutenablement tapissées non point d'unité, mais d'exclusion nationale. De la République sud-africaine aux pointes nord, notre continent est un immense gisement d'exclusion nationale vêtu aux couleurs de la stabilité et de l'unité. Partout, dans une Afrique livrée à l'indignité et en panne d'âme, des constitutions merveilleusement pavoisées gémissent sous les plombs lâchés aux quatre coins de la démocratie. Tant que le sous-développement restait l'apanage des peuples décrétés inférieurs, l'édifice, qui consistait essentiellement à spécialiser ces peuples-là dans la fonction inhumaine de produire et de reproduire le sous-développement nécessaire au maintien de la gabégie des sociétés du jetable, pouvait encore tenir. Hélas, hélas, l'histoire s'est mise à courir plus vite que les multinationales. Le concept du juste prix, au nom de la solidarité qu'impose l'avènement d'un destin commun à tous les hommes, pèsera d'un poids de plus en plus grand sur la balance des échanges et obligera l'histoire à courir plus vite que les nations. L'ère du juste prix vient au galop. Il est le nom de notre époque, n'en doutons pas. Ce siècle vient avec un trou au ventre. Silence de plomb, silence de peur, silence de pain.
Européens, ne tuez donc pas l'Afrique, elle peut encore servir.
Voilà, donc la parole de Sonny Laboutansi nous ramenait vers le passé.